Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui inaugure cette seconde semaine consacrée aux victimes avec Marc Lila, professeur à Columbia. Lors de la première semaine consacrée aux victimes, notre réflexion s'est organisée à partir du témoignage de victimes directes, d'un crime de droit commun, de terrorisme, victimes de violences, de guerre. Cette seconde semaine va considérer l'importance que prend la figure de la victime dans nos démocraties. Qu'il s'agisse des groupes qui ont été l'objet d'une répression atroce, on pense bien sûr aux Juifs et à la Shoah, ou ceux qui ont été colonisés, ou encore aux dominés qui ont souffert d'une marginalisation sociale, comme les homosexuels, ou qui ont été tenus écartés de la plénitude de leurs droits, comme les femmes, c'est toujours cette figure de la victime qui est invoquée. Revendiquer des violences passées ou endémiques dont on a été victime est devenu une ressource politique. Une ressource politique ou une ressource antipolitique. Parce que la prise en considération des groupes victimisés est à la fois un incontestable progrès démocratique et peut-être aussi un piège. C'est cette aporie que nous allons commenter cette semaine, en commençant avec Marc Lila, qui vient de publier un livre, quoi, en fait, qui a déjà publié un livre en anglais, mais qui vient d'être traduit en français, un livre intitulé « La gauche identitaire, l'Amérique en miettes ». Bonsoir Marc Lila.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu un tableau de l'Amérique aujourd'hui, un tableau de l'Amérique où l'idée d'une victime, l'idée de la victime a pris une importance centrale dans le discours politique?
Oui, vous avez tout à fait raison que l'image de la victime est centrale dans nos débats politiques aux États-Unis, mais je crois qu'il faut monter plus en amont pour comprendre le phénomène. Comme Nietzsche a bien vu, le christianisme est la religion victimaire par excellence. Les Grecs ont mis le Dieu sur Olympe. Les Juifs ont mis le bon Dieu haut du monde. Et les chrétiens ont cloué le Dieu à un arbre. Et à travers les siècles, les chrétiens ont essayé d'imiter la noble souffrance de leur Rédempteur. Et dans l'Église, ce sont les martyrs qu'on admire et vénère. Ce n'est pas les héros militaires, par exemple. Donc, je crois que l'idée de victime est très enracinée dans notre civilisation.
Oui, elle est très enracinée, mais on a été pendant aussi des siècles, comment dirais-je, très occupé à construire des pays, à construire des nations, à construire une citoyenneté. Et les sociétés étaient aspirées en quelque sorte par leur histoire. C'est particulièrement vrai en France avec la nation française. Et on a l'impression que tout d'un coup, c'est moins la citoyenneté qui compte, c'est moins la commune appartenance à une nation qui emmène tout le monde derrière elle, qui soit juif, protestant, chrétien, athée, je pense pour la France. Et on a vu aux États-Unis, mais on le voit également dans toutes nos démocraties, on a vu tout d'un coup une préoccupation nouvelle qui constitue ce qu'une philosophe australienne appelle le normative shift. Il y a eu un tournant d'ailleurs aussi, normatif, qui fait que tout d'un coup, c'était moins la commune appartenance qui était importante, c'était d'essayer de récupérer les injustices passées, et Dieu sait si elles sont nombreuses.
Oui, c'est vrai. En fait, ce qui est frappant, c'est que cette idéologie victimaire bien chrétienne est survécue dans nos sociétés séculaires.
Et non seulement survécue, mais elle se développe, Marc Lila.
Oui, tout à fait. Et se développe surtout dans une ère très individualiste. Donc, il faut comprendre l'individualisme.
C'est ça le grand phénomène
moderne. Voilà. Et donc, c'est pas tellement les groupes comme victimes. C'est plutôt l'individu comme victime qui a pris le devant dans nos débats politiques. Et ça tient, je crois, à plusieurs choses. Une chose, c'est le fait qu'il n'y a pas de projet commun, politique commun, après la mort des grandes idéologies.
C'est ça, c'est l'aspirateur qui est en panne. C'est ce qui nous emmenait tous vers une histoire commune, les grands récits, qu'ils soient des récits positifs ou négatifs, on pense au communisme ou à la nation, c'est ces moteurs qui sont en panne aujourd'hui.
Voilà, et si on ne peut pas penser à l'avenir, on pense naturellement au passé. Et le passé, avec tous ces problèmes, des crimes, etc., au lieu de se concentrer sur un projet pour construire un avenir meilleur, on se concentre sur les victimes individuelles du passé. Et comme si nous sommes encore des nouveaux cartésiens qui disent « je souffre, donc je suis ».
Oui, mais alors, les injustices passées, elles sont très nombreuses, et puis elles sont aussi très collectives, s'agissant des États-Unis. C'est-à-dire que les souffrances, ce qui constitue une société, elle est constituée d'inégalités ou de relations inégalitaires. Alors, prenons l'exemple du phénomène MeToo, dont on va parler cette semaine, et qui agite beaucoup l'Amérique, et qui devient un véritable étalon, le critère à l'aune duquel on va juger tous les rapports sociaux aux États-Unis.
Oui, c'est ça qui m'inquiète, Antoine Garapon. C'est le fait que MeToo, le mouvement MeToo, est focalisé complètement sur le passé et pas sur l'avenir. Parce que dans l'avenir, il faut éduquer nos jeunes. Les jeunes garçons, les jeunes filles, d'avoir des rapports dans la société plus sains.
Plus équilibrés, plus respectueux.
Équilibrés, voilà, tout ça. Mais il y a un accusé sur le banc des accusés, et ce n'est pas le juge Kavanaugh, c'est l'histoire.
C'est ça. Vous faites référence à ce candidat à l'investiture américaine, à l'investiture dans la Cour suprême, à la nomination à la Cour suprême, pardon, et qui est rattrapé par le passé, un passé très très lointain, en plus.
Oui, 38 ans. Mais l'histoire de cette femme, dans l'imaginaire américain actuel, c'est pas son histoire. C'est l'histoire des femmes, dans l'histoire. Par exemple, il y avait une discussion entre un sénateur républicain après les discussions avec Kavanaugh et une femme qui était très émotionnée et fâchée. Elle a dit en mettant des questions à cette dame, elle s'appelle Ford, Madame Ford, c'est comme si vous déniez le fait que moi-même j'ai souffert. Donc, elle a fait une mélange entre son histoire personnelle, l'histoire de cette femme et les expériences des femmes dans tout le temps.
Oui, c'est-à-dire que la victime, et ça c'est quelque chose qui tient à la figure de la victime devient intouchable, comme si elle était sacrée. Et de questionner ou de remettre en cause, ce qui est le propre d'ailleurs d'un tribunal de justice ou d'une commission d'audition au Sénat, dans lequel on pose des questions, bien sûr, c'est même d'ailleurs le but de la réunion, vous décrivez, vous notez aux États-Unis cette tendance des victimes ou des groupes victimisés par l'histoire, on pense bien sûr aux Noirs, à devenir intouchables. On ne peut plus remettre en cause parce que leur souffrance, en quelque sorte, les légitime pleinement.
Oui, et c'est pour cela qu'on ne peut pas discuter dans une manière ouverte comment aider les Noirs qui ne sont pas les bourgeois éduqués, diplômés, mais les gens qui restent, par exemple, dans la partie sud de Chicago, où il y a beaucoup de violence, l'éducation est mauvaise. Pour parler de cette situation, il faut parler aussi de la psychologie des gens qui vivent là, les décisions qu'ils font, qui sont parfois pas les bonnes décisions pour eux-mêmes. Donc, mais si on entend ça de la bouche d'un homme blanc, c'est interprété comme, comme on dit, blaming the victim. C'est le victime qui...
On enfonce la victime, oui. On dirait en français, on enfonce la victime.
Voilà, on enfonce le victime. Et donc, c'est impossible de discuter les mesures qu'on pourrait prendre pour aider les gens. Donc, il y a des tabous qui entourent toute cette question.
Alors, c'est le phénomène de l'appropriation culturelle, ce que vous décrivez, c'est-à-dire cette représentation qui est très nouvelle et qui est d'ailleurs également présente chez nous, où seules peuvent parler de leurs souffrances et de leurs problèmes les personnes qui sont victimisées. Elles dénient à quiconque autre qui n'appartient pas à leur communauté le droit d'essayer d'élaborer ensemble des solutions ou même simplement de parler de cette condition.
Et le résultat, c'est que c'est impossible pour moi de sympathiser avec quelqu'un qui dit, comme en blanc, j'ai pas d'idée du tout de ce que cette autre personne a souffert. Il faut partager quelque chose pour que la sympathie existe.
Oui, parce que vous notez que, bon, il y a cet état de fait, mais il y a un processus, et c'est une phrase de votre livre, vous dites, cette spirale, on est dans une spirale identitaire qui conduit à une, je cite, à une définition de soi sans cesse plus étroite et exclusive. Sans cesse plus étroite et exclusive. Ça veut dire que cette spirale identitaire coupe, elle marche en sens inverse de celui de la citoyenneté, Marc Lila.
Oui, et au lieu de la possibilité de se rassembler pour un but politique. Je vous donne un exemple. L'acronyme qui a été utilisé la première fois, je crois, aux États-Unis, LGBT. Oui. Pendant les années 60, par exemple, on parlait des homosexuels. Pendant les années 70, on disait gay et lesbienne. Plus récemment, il y a les gens transgenres et aussi les gens bisexuels. Donc, ça fait LGBT. Mais ça continue. Il y a les gens qui veulent être appelés queer, et etc., etc. Donc, il y a à peu près maintenant une dizaine de lettres dans cet acronyme.
Oui, et à chaque fois une définition plus restrictive en fonction du vécu ou de la particularité de chaque groupe. Donnez-nous un peu l'ambiance dans les universités. Vous enseignez à Columbia, à New York, qui n'est peut-être pas l'université la plus touchée par ce phénomène.
Non.
Parce que c'est New York, parce que c'est une ville post-raciale.
Il y a la réalité sociale.
Il y a la réalité sociale qui vous environne. Oui. Vous êtes près de Harlem, vous êtes dans une ville qui vibre beaucoup. Mais ça devient comment dirais-je, un problème dans des universités américaines, les grandes universités américaines, Marc Lila, cette appropriation culturelle, ce politiquement correct, cette réticence à parler des autres, à parler d'autrui, la nécessité d'alerter avant, lorsqu'on va aborder un sujet qui peut être sensible, on a l'impression qu'il y a une somme de précautions qui retire toute spontanéité à la vie sociale.
Oui, en ce moment, il faut avoir, comme on dit dans le droit américain, standing. Je ne sais pas s'il y a un mot en français pour ça, mais il faut avoir le droit de parler sur un certain sujet avant de parler. Et après ça, il faut contrôler ce qu'on dit et aussi contrôler les mots. Parce qu'il y a les mots qui déclenche la colère de l'autre côté.
Comme par exemple.
Oui, par exemple, si on dit, par exemple, d'une personne noire, ah oui, elle parle très bien.
C'est positif, c'est un compliment.
C'est positif, mais ça a les connotations dans leurs esprits qu'en général, les noirs ne parlent pas bien. Donc, elle est l'exception. Je comprends ça un peu. Mais j'ai lu récemment dans un livre une liste des phrases et des mots qui ne sont plus permis dans les livres pour les enfants.
Alors, comme par exemple?
Par exemple, on ne dit plus le père et le et la mère d'X, on dit les parents d'X. Parce que peut-être il y a deux parents du même genre, etc. Mais c'est une liste extrêmement longue. Il existe aussi chez nous des éditeurs pour les, comment dirais-je en français, les sensitivités. Il faut être absolument sûr qu'il n'y a un seul mot dans un livre qui pourrait enfoncer
heurter la sensibilité,
quelqu'un d'autre.
La susceptibilité, en fait.
Donc maintenant, c'est un métier. C'est un métier d'être un tel éditeur. Il gagne pas mal d'argent et il ou elle sont là avec une longue liste des phrases.
Pour traquer les mots interdits.
Voilà, c'est ça.
Mais Marc, là, c'est le contraire de la liberté intellectuelle. Ça, c'est le contraire de la, c'est le contraire de la spontanéité et de ce qui définit une université, qui est un lieu de savoir, de transmission, un lieu dans lequel on est libre, il n'y a pas de police de la pensée. Alors là, c'est ce qui semble s'installer.
Oui, et surtout dans la littérature, comme vous savez bien, Antoine Garapon, c'est une art, la littérature.
Bien sûr.
N'est-ce pas? Et l'art n'est pas représentatif. L'art est là pour toucher l'imagination.
Et jouir de sa liberté, précisément.
Voilà, voilà. Mais maintenant, les livres pour les enfants sont tous peut-être pareils. Il y a une histoire banale avec les caractères, avec les peaux différents et avec les parents différents aussi. Et à la fin de l'histoire, tout le monde est content. Tout le monde est content. Donc les contes de fées, parfois un peu effrayants, ne peuvent plus exister. Et donc, c'est banal. Oui. C'est pour cette raison que les enfants vont regarder sur l'Internet, parce que la littérature pour les enfants n'existe presque
plus. Alors, il ne faut pas qu'ils lisent la Comtesse de Ségur. Mais donc, les livres pour enfants, il n'y a plus de contes de fées. Mais alors, ça serait une curiosité culturelle ou ça serait anecdotique si ça n'avait pas pénétré le discours politique lui-même et les discours politiques, Marc Lila, parce que vous vous adressez en tant qu'homme de gauche à votre sensibilité, ouais. Sensibilité démocrate, mais vous montrez bien dans votre livre à quel point ce qu'on pourrait appeler une idéologie victimaire, c'est un peu réducteur, mais à quel point ça a contrarié et façonné, un peu perverti le discours politique américain contemporain.
Oui, et ça empêche aussi l'action politique, c'est ça que je veux dire dans le livre. Je vous donne un autre exemple. Il y a maintenant, heureusement, beaucoup d'étudiants noirs. Et maintenant, après deux générations de l'action affirmative, comme ça s'appelle, aux États-Unis, beaucoup d'entre eux viennent des familles bourgeoises. C'est une chose extraordinaire. C'est très bien. Mais pour eux, les étudiants, il faut absolument qu'il raconte une histoire de souffrance.
Qu'ils n'ont pas vécu.
Parce que, voilà, être noir, c'est avoir une histoire de victimisation au lieu de focaliser l'énergie sur des autres personnes, des autres Afro-Américains qui ont besoin de notre aide. Non, je veux dire, je ne peux pas le dire à mes étudiants, mais vous n'êtes pas victime. Mais il y a d'autres personnes comme vous qui sont des victimes. Donc, mettez-vous au travail pour aider les autres.
Oui, parce que en réalité, cette l'ultima ratio, la division ultime qui constitue des catégories politiques, ne sont plus des catégories de classe sociale, ne sont plus des catégories d'oppression, ne sont plus des catégories socio-économiques, mais ce sont des catégories qui ont quelque chose à voir avec l'identité individuelle. L'identité individuelle.
Oui, c'est vrai, Antoine Garapon, dans l'imaginaire américain, mais en fait, nous avons des problèmes de classe économique énormes aux États-Unis maintenant. Mais à gauche, la gauche a perdu le langage de la lutte des classes, des inégalités. Il n'y a pas des idées nouvelles pour renouveler l'économie, etc. toute l'énergie est focalisée sur ces problèmes d'identité.
Et est-ce qu'on pourrait pas dire, c'est du moins l'argument que vous soutenez, Marc Lilla, dans votre livre, c'est que la dernière grande idéologie, le dernier grand souffle qui a été donné à l'Amérique, il a été donné par Ronald Reagan, de manière réactive et de manière un petit peu ambiguë, c'est-à-dire le discours c'était un libéralisme plus grand, enrichissez-vous, l'Amérique va devenir plus forte à cause de votre enrichissement et de votre énergie personnelle, ce qui était un message un petit peu ambigu.
Comment ambigu?
Ronald Reagan, ben c'était ambigu parce que c'était à la fois un discours mobilisateur pour le pays, mais qui était très individualiste.
Ah voilà, oui, c'est ça. C'était un message libertaire,
voilà,
je dirais.
Voilà, c'est ça.
Et non, mais avec Reagan, il avait tout de même une vision d'une société à construire. Il disait aux Américains que si on baisse les impôts, si on baisse les régulations, tout le monde seront content et riche. Et pas seulement ça, la nation en tant que nation sera plus forte.
Oui, oui.
Mais au même temps, pendant l'époque de Reagan, qui, à mon avis, a commencé en 80 et a duré jusqu'à l'élection de Donald Trump, l'idéologie reaganienne...
Y compris par Obama et Clinton, ils ont embrayé à cette vision de l'Amérique.
Ouais, c'est comme ça. Mais pendant cette période, au lieu de formuler une vision alternative, une vision basée sur la solidarité sociale, la gauche s'est démissionnée. Et démissionnée de sa responsabilité d'offrir une alternative.
Mais c'est quand même une responsabilité que de lutter pour les droits des homosexuels, des noirs, des femmes, des natives, Marc Lilla. C'est-à-dire que c'était le choix de rectifier des inégalités. Ça, c'est un thème de gauche.
Ah oui, tout à fait. Mais ce sont des responsabilités parmi les autres politiques. Mais surtout, pour défendre les droits des minorités, les femmes aux États-Unis, il faut avoir le pouvoir. Il faut gagner les élections. Mais avec un message basé sur les différences sociales, on ne peut pas gagner les élections, surtout au niveau des États fédéraux.
Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. A young boy at the age of 5, my mother said I'd be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I want you to believe me, honey, we're having lots of fun. I'm a man.
Yeah!
I spell M H I N. That rubber than me.
Yeah!
No B. Oh, child. Why? That spell managed boy. But a man. I'm a full-grown man. I'm a man.
France Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Toujours avec vous, Marc Lilla, pour parler de la politique des identités aux États-Unis, et vous êtes venu avec un air de blues de Muddy Waters, une chanson intitulée Manish Boy. Vous pouvez nous dire quelle...
Oui, c'est pour notre discussion. Je croyais que ça serait parfait parce que c'est une chanson sur le fait que dans le passé, on appelait les hommes noirs aux États-Unis, les garçons.
Ah oui.
Ah, viens ici, garçon.
Boy.
Oui, même si la personne était très très âgée, et c'était terrible. Donc, il fallait à un certain moment dire, mais je ne suis pas un garçon, je suis un homme. Donc, c'est une identité masculine très importante pour les hommes noirs. Et je voulais donner un exemple de l'identité masculine positive. Voilà. Bon,
très bien. Mais ce que vous constatez aussi, et ça c'est une tendance générale de la politique, c'est que à gauche, dans les universités américaines et dans le discours général, cette segmentation finalement de l'électorat, ce qui est important, c'est de s'exprimer, c'est exprimer ses valeurs, dire qui l'on est, finalement, qui était une démarche qui était de nature plutôt religieuse ou plutôt individuelle, psychologique, c'est-à-dire qui suis-je, qui suis-je, et peut-être que ça a d'ailleurs été fortement poussé et favorisé par Facebook et par ce nouvel individualisme, Marc Lilla, mais c'est un dévoiement à vous entendre de la politique. La politique, c'est chercher de convaincre les autres, pas de se convaincre soi-même, pas de se définir soi-même.
Non, c'est vrai, Antoine Garapon, la question fondamentale de la politique, c'est qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas qui suis-je. Il n'y a pas de politique de Montaigne, hein.
Ils sont méfiés, d'ailleurs, ils se distancient de la politique.
Voilà. Le démon de toujours s'exprimer, c'est une façon d'esquiver les tâches politiques. Moi, j'ai pu m'exprimer, donc je peux rentrer chez moi. Oui. C'est fait.
Oui, alors qu'en fait, la vie démocratique, elle est faite de confrontation à l'altérité. Ce qui est important, c'est d'abord de convaincre l'autre, de convaincre les électeurs, de façon à ce qu'ils rejoignent un groupe, qu'ils rejoignent un mouvement. Quoi. C'est comme ça qu'on considérait la politique. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un substrat, il faut qu'il y ait quelque chose comme la citoyenneté qui existe.
Et il faut en même temps écouter. Donc, les jeunes à gauche aux États-Unis sont préparés d'aller, par exemple, à Nicaragua pour construire des maisons, aller en Palestine pour aider les femmes, mais aller à Texas pour parler avec les électeurs blancs, jamais, jamais. Oui. Parce que on présume que ce sont des racistes, ils ont une autre point de vue ou une autre, comme on dit, épistémologie. Il n'y a pas de discussion possible. C'est aussi une sorte de paresse. Parce que c'est difficile et aussi un peu humiliant, je dirais. Ça devrait vous rendre plus humble de parler avec les autres gens et de reconnaître ou découvrir que ce sont des gens comme tout le monde, mais avec des autres croyances, etc.
Et qui sont respectables. On est dans une politique de la caricature, de la stigmatisation. Et la stigmatisation, ce qui est dangereux, c'est qu'elle risque d'être interactive. C'est-à-dire que dans les critiques aujourd'hui de Trump, il y a une critique constructive de Trump. Et Dieu sait si les occasions ne manquent pas, si les arguments ne manquent pas. Mais il peut y avoir une critique stigmatisante qui pousse finalement l'électorat de Trump à avoir une réaction identique. C'est ce jeu de dégradation, de spirale infernale que vous craignez pour votre pays, Marc Lilla.
Oui, et c'est un résultat assez logique de la politique identitaire. Si mes opinions politiques ne sont que l'expression de moi-même, mon identité, ça veut dire que si vous critiquez mes idées politiques, vous critiquez moi et mon identité. Et à ce moment-là, il n'y a aucune discussion possible.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Marc Lilla, concernant cette confusion qui est provoquée par l'identité, cette confusion entre mon identité et mes opinions. C'est-à-dire parce que je suis une femme, parce que je suis homosexuel, parce que j'appartiens à telle ou telle communauté, je dois pensée comme cette communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette distinction fondatrice de la citoyenneté, où je suis différent de... Il y a mon moi privé, et il y a l'intérêt général. C'est la théorie de Rousseau, est très forte en France. Il y a l'intérêt général que je porte en moi, et qui est cette capacité de m'abstraire de moi-même, qui a été favorisée par l'éducation, favorisée par la vie citoyenne, de m'abstraire de moi-même pour pouvoir décider, discuter, délibérer de l'intérêt général.
Oui, et même au niveau stratégique, la tâche devant le Parti démocrate aux États-Unis maintenant est d'aller dans le Sud, dans le Midwest, parler avec les gens qui sont contre l'avortement et leur dire nous ne sommes pas d'accord sur l'avortement, mais je veux avoir votre vote. Parce que il y a d'autres choses qu'on peut faire pour vous.
Sur la réindustrialisation, sur l'enrichissement collectif.
Et il y a un tabou, par exemple, à la Convention nationale des démocrates, c'était, je crois, en 96, le gouverneur de la Pennsylvanie voulait mettre une partie du programme du parti, que le parti respectait les gens qui était contre l'avortement. Et il voulait juste faire un discours là-dessus. C'était un gouverneur très à gauche, avec le soutien de tous les syndicats, etc., et catholique. Il voulait juste faire son discours. Il savait très bien qu'il irait échouer. Mais les gens qui ont organisé ce congrès ne l'ont pas permis de parler.
Parce qu'il avait simplement dit qu'il respectait les gens qui étaient opposés à l'avortement. Voilà. Mais Marc Lila, est-ce que plus profondément, c'est une inquiétude qu'on voit d'ailleurs dans toutes nos démocraties, ici en Europe, est-ce que c'est pas, dans le fond, un dépérissement de l'institution politique? L'institution politique comme étant ce lieu de métabolisation des contraires. C'est par définition le rôle que se donne une cour de justice, un parlement ou une école, elle se constitue d'opinions contraires. C'est ce qui l'a fait vivre.
Oui. C'est une conséquence aussi, je crois, Antoine Garçon, du fait que après les années 60, la gauche américaine a changé le focus de ses efforts du Parti démocrate aux mouvements sociaux. Et dans les mouvements sociaux, on est toujours avec les gens qui sont d'accord avec vous. Et c'est pas nécessaire de parler avec les autres, échanger des vues. Il faut juste lutter pour une cause.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une crainte ou une méfiance à l'égard du compromis? Les institutions, je disais tout à l'heure, il y a des points de vue différents. Donc, il y a des compromis. Et ça, le compromis aujourd'hui, ça passe plus, Marc Lila.
Non, compromettre son sens de soi, son identité, c'est pas possible. Et en fait, ça devrait être impossible. Mais il faut convaincre les jeunes, surtout aux États-Unis, maintenant, que le monde politique ne tourne pas autour d'eux.
Oui, mais les jeunes, vous parlez beaucoup des jeunes. Les jeunes, ils sont sur leur portable, ils sont sur Facebook. Les jeunes, ils sont sur...
Je suis un vieux monsieur.
À ce moment-là, je ne sais pas qui je suis. Mais en tout cas, nous vivons dans le même monde. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une défiance des jeunes, peut-être plus encore d'ailleurs, à l'égard des institutions, y compris à l'égard du vote aux États-Unis.
Oui, c'est en fait un comportement politique intellectuel un peu adolescent, je dirais. Parce qu'on va laisser la politique à papa. Les gens responsables dans les costumes, etc. Mais si on veut gouverner, il faut être responsable, il faut être adulte.
Oui, mais alors vous parlez beaucoup des États-Unis, c'est normal, c'est votre pays et vous avez écrit ce livre qui porte principalement sur les États-Unis, mais vous avez écrit une préface pour les Français. Oui. Les auditeurs ont pu se rendre compte que vous maîtrisez très bien notre langue, que vous connaissez très bien la France. La France, elle pourrait se croire un peu immunisée contre ces tendances en raison de son attachement à la République. C'est un modèle très républicain, la France. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Le regard que vous portez, le regard informé que vous portez sur la France, Marc Lila, n'est pas aussi réconfortant.
Non, je m'inquiète un peu parce que j'adore la France et j'adore surtout la tradition républicaine, démocratique. Et il y a une conscience partagée, je crois, de cette tradition. Et cette tradition, et même le mot républicain n'existe pas aux États-Unis pour les raisons claires.
Parce qu'il y a un parti. C'est ça, voilà.
Il y a un parti.
Oui, mais chez nous aussi, il y a marqué.
Mais je vois des signes inquiétants maintenant. Par exemple, le discours des indigènes de la République. Je parle pas mal avec les étudiants français qui me disent que dans la politique universitaire, les organisations universitaires, la question d'identité est la question primaire. C'est la première question. Il y a beaucoup de batailles entre les groupes identitaires. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais je trouve ça assez inquiétant.
Il est vrai que la France, mais moi, d'un point de vue français, je trouve ça d'ailleurs très positif, regarde son passé colonial. Comme elle a regardé Vichy, comme elle cherche à regarder l'Algérie, qui sont des moments douloureux, et chaque peuple a des moments douloureux. C'est pas une spécialité de la France. Mais c'est les regarder pour quoi faire. C'est ça, plutôt, la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va reconstruire ensemble avec des anciens, des peuples venant ou issus de peuples anciennement colonisés. Alors ma question à ce moment-là, et c'est à quoi vous consacrez d'ailleurs la fin de votre livre, Marc Lina, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce constat peut être sévère, il est partagé par certains, il est bien sûr, il en irrite d'autres, mais quelles seraient les voies de sortie pour que nos politiques retrouvent le chemin d'une institution, d'une métabolisation des identités, une créolisation des identités, mais en vue d'un moteur commun, en vue d'un destin commun.
Oui, je parle surtout des États-Unis, mais il nous faut redécouvrir l'importance du statut de citoyen. C'est un statut, c'est pas tellement une identité, mais c'est un statut qu'on peut partager avec les autres.
Ben, c'est une fiction
c'est
partagée.
C'est une fiction, voilà. Et cette statut ne touche pas aux identités ethniques, raciales, sexuelles. On peut partager quelque chose avec quelqu'un d'autre pour faire quelque chose ensemble, pour un projet commun, pour protéger le bien commun. Et donc, il faut aux États-Unis reformuler notre programme, nos idées en termes de citoyenneté partagée. Parce qu'il y a bien un bien commun, et comme disait Rousseau, il faut juste le trouver.
Oui. Mais pour cela, il faut qu'on mobilise des croyances, parce que vous disiez que c'était une fiction, en partie une fiction. C'est ça, la politique, c'est de partager des croyances ensemble. Or là, on a l'impression que ces croyances communes, c'est-à-dire ces choses capables de réunir au-delà de nos différences culturelles, elles sont de plus en plus difficiles à trouver, peut-être d'ailleurs à cause des réseaux sociaux, peut-être à cause des capacités de communication à travers le monde qui sont trop fortes, trop prégnantes, qui ont un impact trop fort sur un plan affectif.
Je ne sais pas. Je me souviens de ces passages dans Tocqueville où il dit que il n'y a pas grand-chose que les Américains au niveau des idées partagent, mais on peut faire un argument politique sur l'intérêt privé bien compris. Et donc, on peut, j'espère que on va dire aux Américains, nous, la gauche, les démocrates, que c'est dans votre intérêt de être solidaire avec les autres pour vous protéger vous-même. Vous avez besoin dans votre vie privée
des autres,
de la solidarité des autres. Et plus que nos sociétés sont individualistes, plus on a besoin des liens entre les gens et les liens affectifs, effectivement. Mais quand le monde est si... quand la société est très diverse, il faut trouver un statut comme de citoyenneté, comme il y a.
Oui, mais d'un point de vue français, on craint beaucoup ici l'accroissement, le creusement des inégalités. Parce que pour qu'on puisse reconnaître l'autre comme un alter ego, il faut qu'il y ait un minimum d'égalité. Or, nos sociétés sont condamnées à une inégalité de plus en plus criante, patente, insupportable même. Est-ce que ce n'est pas un obstacle, Marc Lila, à ce travail de la citoyenneté ?
Non, pas du tout. C'est la raison pour laquelle il faut insister sur la solidarité. Parce que nous vivons dans un monde économique globalisé, qui nous pose des défis très importants. Et donc, il faut tout d'abord, avant même de parler des solutions, il faut insister sur le principe que nous sommes tous ensemble, que c'est une équipe.
Oui, mais alors, pour ça, il faudrait dresser un bilan, parce que Reagan, c'était la consécration du néolibéralisme. On dit en France, je crois que ça veut dire la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire cette idée qu'on va gouverner les gens par la concurrence, qu'il n'y a plus de société. Margaret Thatcher, dans une phrase célèbre, a dit « Je ne sais pas ce que c'est que cette chose qu'on appelle la société ». C'est-à-dire que, vous l'avez bien souligné, d'ailleurs, dans votre livre, le réganisme misait tout sur l'individu, l'individualisme, en pensant à une convergence naturelle de l'individu vers la grandeur de l'Amérique. Aujourd'hui, on est en fin de cycle. Je vous demande si on n'est pas en fin de cycle après ce cycle commencé en 1980 et en 1989, après la chute du mur. Comment retrouver un lien quand il y a eu autant de poussées individualistes, Marc Lila?
Parce qu'il faut insister sur le fait que nous avons des liens en réalité, parce que votre destin personnel dépend aussi de le mien et aussi dépend sur les institutions, dépend sur les idées. Le réganisme, il faut savoir que le réganisme était un pari, parce que Reagan a dit si on baisse les impôts, si on baisse les régulations, vous serez plus riche et plus en sécurité. Et c'est pas vrai.
Et c'est pas vrai. Et ce pari n'a pas été tenu.
Voilà. Et c'est pour ça que c'est le moment d'insister sur la solidarité. Je crois qu'il y a une soif pour cette rhétorique aux États-Unis.
Merci beaucoup, Marc Lila.
Antoine Carapon, merci.
Matière à penser, Marc Lila, Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. À demain, où on verra avec Anne Dugin le mouvement MeToo et ses conséquences en France.